En ce 21 novembre, la Maison Lilananda, notre radio, est ravie d'accueillir en son sein les conférences de l'atelier. Aujourd'hui, Ludivine Bantini, battre l'extrême droite.
Donc, ce 21 novembre, nous accueillons Ludivine Bantini, qui est ici. Pourquoi Ludivine Bantini? Parce qu'elle a écrit ce petit livre que vous n'allez pas partir sans le prendre en main, l'acheter, éventuellement lui faire dédicacer. Battre l'extrême droite. Elle vous parlera sans doute, peut-être vous sentirez dans l'exposé. Elle a écrit de nombreux livres, et j'ose pas dire celui qu'elle est en train d'achever, elle le fera elle-même si elle le souhaite. Nous ne sommes rien, soyons toutes. Voilà. Alors, ma chère Ludivine, je vous laisse mener la soirée comme vous l'entendez.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Je suis ravie d'être là. Non, c'était pas si compliqué de venir à Montluçon. Et je suis très contente de voir que vous êtes nombreuses et nombreux. Ça me touche beaucoup. Et puis, j'espère qu'on va vraiment pouvoir discuter. Et justement, j'ai prévu de quoi alimenter aussi nos discussions au travers de documents. Parce que je pense que, voilà, pour combattre la menace fasciste et essayer de battre cette extrême droite écrasante qui avance comme un rouleau compresseur, il faut vraiment se donner la nourriture la plus précise possible sur ce qu'est le fascisme et la fascisation, et sur ce qu'est, bien sûr, cette extrême droite, et singulièrement le Rassemblement National, et ce qu'est son programme. Et c'est ça qui me plaît dans ce genre de rencontre, c'est que, bah voilà, on est plein de petits poissons, mais c'est en étant fédérés, en étant unis et en travaillant vraiment à la détermination et au courage qu'on peut battre les méchants. D'accord. Donc, la première chose, on va faire un tout petit peu d'histoire, mais pas beaucoup. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de discuter de la situation, même si je suis historienne. Voilà. Pierre vous l'a pas forcément dit, mais c'est ça que je fais dans la vie, c'est que je fais de la recherche en histoire. Et j'essaie d'écrire des livres, notamment sur des moments un peu exaltants de soulèvements populaires. J'ai beaucoup travaillé sur la Commune de Paris, sur la grève générale de 1968, sur l'histoire de femmes en lutte et de lutte féministe depuis la Révolution. Et donc là, oui, en effet, je termine un livre. Là, je dois le rendre lundi, le manuscrit sur le Front populaire avec beaucoup, beaucoup de sources diverses. Mais justement, qui dit Front populaire dit aussi antifascisme, parce que le Front populaire s'est constitué vraiment dans une perspective antifasciste. Il ne s'agit pas de dire qu'on serait déjà sous le fascisme, parce que si c'était le cas, de toute façon, on ne serait pas là pour en parler. Ce genre de rencontres publiques, la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté d'opposition, évidemment, n'existeraient plus, puisque c'est le principe même du fascisme, que d'éliminer ses opposants, que d'éliminer toute forme de lutte, toute forme de résistance. Donc, on n'est pas sous le fascisme. Mais en revanche, ça peut arriver très vite et on est face à des processus vraiment d'accélération. Ce qu'avec un ami sociologue dans un livre qu'on a écrit il y a 4 ans maintenant déjà, face à la menace fasciste, Hugo Paletta, voilà, on a nommé justement cette fascisation. Ce sont des processus qui peuvent s'accélérer, qui peuvent reculer en fonction des résistances. Mais ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit sur le fascisme, c'est que lorsque Mussolini, que vous voyez ici, notamment lors de la marche sur Rome, à quel moment ça a eu lieu la marche sur Rome? Ça a eu lieu à un moment où les grandes confédérations syndicales ouvrières appelaient à une grève générale. Et avant cela, il y avait eu ce qu'on avait nommé en Italie le Biennio Rosso, donc c'était les deux années rouges, Biennio Rosso, donc 1919 et 1920, vous aviez vraiment des luttes sociales, une conflictualité ouvrière et paysanne très très importante, avec des occupations d'usines, hein, c'était vraiment la première fois qu'on voyait ça. On en a eu en Hongrie, puis bien sûr on les verra en France en 1936, mais voilà, il y a eu ce moment incroyable d'intensité qui était lié aussi, bien sûr, à la révolution russe qui venait d'avoir lieu. Et puis, il y avait aussi des appropriations paysannes de terres qui étaient prises aux grands propriétaires fonciers. Et donc, les fascistes, donc fascistes, c'est le faisceau, un faisceau de combat, puisqu'ils avaient choisi le symbole du faisceau des licteurs de l'Empire romain, et de la République romaine, c'était vraiment pourquoi ? C'était pour combattre C'est rouge, c'était pour combattre les organisations ouvrières, les organisations syndicales, les communistes également, les socialistes, les anarchistes, les libertaires. Et donc l'objectif vraiment des fascistes, c'était d'en finir avec cette subversion, ces processus d'émancipation ouvrière et paysanne. Donc c'est peut-être déjà un des premiers critères sur l'extrême droite, c'est justement une volonté d'avoir un ordre social immuable et qui n'est pas justement traversé par des luttes. Donc là, vous voyez Mussolini lors de la marche sur Rome qui va l'amener à prendre le pouvoir, appelé par le roi, Victor Emmanuel II, et appelé aussi du coup par une partie de l'Église catholique et une bonne partie de la bourgeoisie italienne de l'époque. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver aussi aujourd'hui, hein, qu'on pourrait aussi traduire autrement par plutôt Hitler que le Front Populaire, hein, qu'on a beaucoup trouvé dans les années 30 et à la fin des années 30. Mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il y a quand même une alternative. Alors, il y a peut-être des gens qui vont contester ça, c'est le but. Là, je vais dérouler mon propos, et puis après, on pourra être en désaccord, hein, bien évidemment. Et notamment, peut-être des gens parmi vous, je ne sais pas, Pierre m'a dit que c'était peu probable, mais qui voteraient extrême droite, hein, pourquoi pas. Donc, et si c'est le cas, tant mieux, parce que le but, c'est vraiment aussi de partir de ce qu'est l'extrême droite et d'essayer de montrer que nos intérêts, les intérêts populaires sont sans rapport avec ce qu'est le projet du RN. Mais c'est ça un peu l'alternative, c'est entre ce qu'on va dire le socialisme, à entendre au sens large, hein, c'est pas forcément François Hollande le socialisme, d'accord ? C'est vraiment plus vaste, hein, le socialisme, c'est le combat volontaire, volontariste, pour l'égalité, la justice, l'émancipation et la solidarité. Donc, socialisme d'un côté, ça peut se décliner dans plein de branches, hein, le communisme, l'anarchisme, les libertaires, etc. Fascisme, hein, c'est aussi ce que Rosa Luxembourg disait et beaucoup d'autres, un peu socialisme ou barbarie. Et donc d'ailleurs les fascistes, une des premières choses qu'ils ont faites avant et après leur arrivée au pouvoir, c'est d'assassiner un certain nombre de militants et militantes, comme je vous le disais, ben, syndicalistes et autres, et aussi des dirigeants, comme Matteotti qui a été assassiné par les fascistes, qui était un dirigeant socialiste, ou encore Amendola, qui avait forgé le terme de totalitarisme. Donc on était déjà dans les années 20, et déjà Amendola avait forgé cette notion de totalitarisme, c'est-à-dire justement une société où le pouvoir concentré entre les mains d'un seul homme et d'un seul parti contrôle toute la société et veut coloniser les esprits. Alors ça, cette question de la colonisation des esprits, elle est vraiment fondamentale, me semble-t-il, pour comprendre et l'extrême droite, et la machine de guerre médiatique qui, à certains égards, se met à son service. Donc Hitler a voulu d'ailleurs copier en partie Mussolini. Ici, vous le voyez en train dans des photographies d'atelier où il essaye de s'entraîner pour devenir un tribun et un orateur. Mais de la même manière que Mussolini, là vous le voyez avec le président de la République de Weimar, le dernier président de la République de Weimar, von Hindenburg. Hindenburg a appelé les nazis au pouvoir, tout comme Victor Emmanuel II en Italie l'avait fait en 1922, donc ici on est en janvier 1933. Les nazis n'avaient pas la majorité absolue, hein, puisque aux élections de novembre 32, ils étaient autour de 33% par là. Mais une grande partie, bon, vous le savez sans doute, hein, une grande partie de la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie industrielle, hein, les deux grands noms qu'on peut citer, c'est Thyssen et Krupp, hein, vous avez peut-être encore des ascenseurs Thyssen, bon voilà, dans la métallurgie, c'était le grand patronat qui avait soutenu les nazis financièrement, parce que les nazis sont là, comme je le disais, pour rétablir l'ordre menacé par des soulèvements populaires, et notamment des soulèvements au sens très large, ouvriers, socialistes, communistes. Donc c'était ça la fonction vraiment du fascisme, et il y en a eu des déclinaisons et des succès d'années en France, avec toutes ces ligues d'extrême droite, dont beaucoup se sont mises vraiment à admirer Mussolini et Hitler, comme vous le voyez ici, le fameux 6 février 1934, lorsqu'il y a eu une peut-être tentative de renverser la République. Enfin bon, c'est pas vraiment mon sujet pour aujourd'hui, mais pour refaire un peu d'histoire et pour vous dire que voilà, l'antifascisme, le no passaran, ils ne passeront pas, le fascisme ne passera pas, eh bien c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN de la gauche. Hein. Ici, vous voyez justement ces croix de feu anti-parlementaires manifestées dans les années 30. Et dès lors, c'est vraiment à partir du moment où on voyait en France des ligues au minimum factieuse et pour certaines fascistes, défiler aux gardes à vous dans les rues, de France que s'est constitué le Rassemblement populaire sur une base antifasciste. Mais ce qui est intéressant dans cette photographie, vous voyez, c'est qu'on a ce qui va devenir quelque chose de structurel. Le fascisme ne passera pas. En espagnol, je ne suis pas hispanophone, donc je n'ai pas le bon accent, mais no pasarán. Et puis, vous avez aussi quand même ici « Vive la Commune de Paris ». Alors, finalement, cette photographie de 1934, quand se constitue le Rassemblement populaire, elle peut nous servir de fil directeur. Parce qu'il y a d'un côté « à bas », voilà, « à bas l'extrême droite »,« à bas le fascisme », voilà, la détermination à lutter contre, de manière défensive, mais il y a aussi un projet, il y a aussi un programme, il y a aussi un espoir, qui, en l'occurrence, ici, se manifeste autour de la Commune de Paris. Bon, mais... voilà, c'est deux pôles que je voudrais tenir bien entremêlés, parce qu'on ne peut pas seulement être sur la défensive, il faut un projet, il faut proposer, faire espérer. On a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Alors, ça c'était une petite prémisse historique pour poser déjà quelques jalons et quelques enjeux, mais on va parler maintenant d'aujourd'hui. Alors, une époque orwellienne. Pourquoi une époque orwellienne? Un peu, vous avez peut-être lu ou vous avez peut-être entendu parler du roman d'Orwell 1984, voilà, où c'est justement un monde totalitaire qu'il décrit à ce moment-là, Orwell. Et donc, il y a quelques années, quand il y avait de grandes manifestations contre la loi sécurité globale, j'avais vu cette pancarte 1789 ou 1984. C'est-à-dire, soit c'est quand même des soulèvements justement pour la justice, des soulèvements qui vont dans le sens de l'héritage de la Révolution française, ou alors c'est le monde totalitaire tel que nous le décrit Orwell dans 1984. Alors, pour le comprendre, en fait, ce que décrit Orwell... Ah oui, désolé, ça va faire mal parfois. Ça va même faire très mal parce que ces gens-là, je vais vous les mettre en long, en large et en travers. Sous toutes les coutures, il y a... Orwell, ce qu'il décrit aussi, c'est le retournement du langage. La liberté, c'est l'esclavage, la guerre, c'est la paix, etc. Et ça, je trouve que c'est ce qu'on est en train de vivre vraiment aujourd'hui au travers de cette machine de guerre médiatique dont je vous en ai sélectionné justement quelques exemples. Alors, vous voyez par exemple ici, Pascal Praud qui nous dit « Le fascisme est à l'extrême gauche ». Voilà, ça c'est une première manière de retourner l'accusation. Vous vous rendez compte, je viens de vous dire, le fascisme ne passera pas depuis les années 30, le no pasarán qu'on entendait aussi pendant la Révolution espagnole et la guerre d'Espagne. Là, causeur, ce torchon raciste d'extrême droite très dur, qui reprend le slogan des antifascistes, qui reprend leur devise, mais pour dire l'antifascisme ne passera pas. Donc ça, c'est vraiment le retournement orwellien. Laure Lavalette, dont je reparlerai, qui est vraiment une députée du RN, très proche de Marine Le Pen, c'est quelqu'un de très dur, c'est vraiment quelqu'un de dangereux, en fait, Laure Lavalette. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est pareil. Elle reprend le no pasarán. Mais ça, c'était l'année dernière, au moment de la constitution du nouveau Front populaire, et donc des élections législatives, et elle disait, voilà, ce nouveau Front populaire ne passera pas. Donc c'est monstrueux, en fait, quand on y pense historiquement, éthiquement, politiquement, d'avoir repris, que l'extrême droite reprenne le no pasarán des fascistes, mais pour l'appliquer à la gauche et à l'union de la gauche qui s'était faite autour du nouveau Front populaire. Donc le no pasarán. Et ça va très loin. En fait, c'est pas seulement les Pascal Praud et l'Empire bolloréen et le RN. Ça, alors, donc du coup, on sera pas d'accord, surtout, hein, moi je précise d'emblée, parce que je vais de temps en temps parler de LFI. Je vais vous expliquer pourquoi. Et de Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas LFI. Mais je trouve qu'on a un énorme problème dans les médias aujourd'hui de ce déversoir sur la France insoumise, de cette manière de traiter cette organisation. Et je crois qu'on sait pourquoi. C'est quand même l'organisation qui, par exemple, à la présidentielle, est très en mesure d'être dans le mouchoir de poche des premiers candidates et candidats. Et donc, il y a vraiment une manière de cibler la gauche en général, et la France insoumise en particulier, qui fait partie de ces retournements orwelliens. Donc lui, bon, pareil, vous le connaissez sans doute, Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre, c'est lui qui a plus ou moins forgé la notion de résilience. Mais voilà ce qu'il dit, lui, Mélenchon, à mes yeux, c'est l'extrême droite. Donc on est dans un retournement total qui est extrêmement grave. C'est vraiment ce que décrit Orwell sur le fait que le langage perd de son sens, il est vidé de son sens, il est... au sens strict, énervé. On lui a enlevé les nerfs pour le transformer radicalement. Et donc, ils sont tous en train de dire ça. Tous en train de dire, là, c'est Darmanin. L'adversaire que je redoute le plus, c'est LFI. Laurent Wauquiez qui nous dit « Le premier danger pour la République ». Ben non, c'est pas l'extrême droite à leurs yeux, puisqu'il y a de plus en plus de porosité entre cette droite classique et l'extrême droite. Mais le premier danger, c'est LFI, LFI, LFI. Donc il faut faire le cordon sanitaire autour de LFI. Et donc le cordon sanitaire, c'est aussi le vocabulaire des antifascistes, c'est le vocabulaire de la gauche contre l'extrême droite. Et c'est même un vocabulaire qui va plus loin, parce que par exemple Jacques Chirac n'aurait pas hésité à reprendre aussi cette formule « cordon sanitaire contre le Front National ». Et bien maintenant, vous voyez, cette expression, elle est retournée pour cibler la gauche en général et LFI en particulier. Donc ce fameux cordon sanitaire. Voilà, donc je pourrais vous en citer beaucoup. Alors moi là, c'est un petit clin d'œil un peu humoristique, puisque l'obsession aussi de Laurent Wauquiez, c'est le wokisme, le wokisme, le wokisme. J'ai bien aimé ces gens dans sa région qui disent on va faire l'observatoire du wokisme, mais de wokisme écrit comme ça, comme W-A-U, comme Laurent Wauquiez. Bon, très bien. Alors ça, on pourrait en effet s'y atteler. Donc, ça, c'est un constat qu'on peut faire et on va voir aussi le rôle que jouent les médias dans ce danger qu'est la prise de pouvoir par l'extrême droite. Alors, là, à partir de là, moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on discute sur les arguments que nous donnent parfois nos voisins, des gens de notre famille, etc. Bref, des gens, des femmes et des hommes qui votent pour le Rassemblement National et qui disent notamment, on n'a pas essayé. Bon, alors, déjà, moi, c'est vrai, par exemple, j'ai jamais essayé de manger du verre pilé, mais je ne vais pas le faire pour autant. Donc déjà, c'est un argument, il est assez problématique. Hein. Je n'ai jamais sauté non plus depuis le deuxième étage de la Tour Eiffel, mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas essayé que je vais me dire, il faudrait faire ça. Bon, mais c'est pas là, évidemment, ce n'est pas ça qui va pouvoir porter. Mais c'est ce qui se passe ailleurs. Bon, alors, on est dans un monde, justement, ça c'est une capture d'écran du site officiel de Donald Trump sur son compte, sur ses comptes, notamment Twitter et autres, X. Et là, il est où ? Il est avec Netanyahou. C'est pas une image volée, c'est une image qu'il a diffusée, Trump. Hein. C'est une image qui vient de Trump et qui est avec Netanyahou, où ça ? À Gaza, en fait, dans un Gaza qui est devenu une riviera et où il n'y aurait plus de Palestiniens. Et voilà, et donc c'est ça aussi le fascisme. En fait, bon, évidemment que là, faire ça à un moment où même les plus grands historiens israéliens, israéliens, je le précise, spécialistes du génocide, de l'histoire des génocides, parlent justement d'un génocide. C'est le cas de beaucoup d'entre eux, bon, évidemment Ilan Pappé, mais Amos Goldberg et beaucoup d'autres. La fascisation, elle est en cours. On le voit vraiment aux États-Unis. Là, je vous montre quoi ? Je vous montre des couvertures de grands romans jusqu'au journal d'Anne Frank, qui n'est pas un roman, évidemment, comme vous le savez, mais ce sont des livres, et Orwell lui-même, ce sont des livres qui sont désormais censurés aux États-Unis dans un certain nombre de bibliothèques publiques. Ce sont des sortes d'autodafés symboliques. Donc ça, c'est bel et bien la fascisation. C'est quand on commence aussi à s'en prendre aux livres, à la culture et à vouloir détruire, à vouloir interdire, empêcher la culture qui ne plaît pas au pouvoir. Mais voilà, des hommes comme ça, d'ailleurs c'est beaucoup d'hommes, il n'y a pas que des hommes, on va y revenir avec Mélanie, Modi en Inde, évidemment Poutine, Orban, je vais en reparler plus précisément, Trump avec Musk, Milley, etc. Voilà, tout ça, Netanyahou, ce sont des personnages qui ont pour vocation d'instaurer un autoritarisme et une assignation à la résignation. Il faut se résigner, circuler, il n'y a rien à voir, et c'est l'homme fort. Et en Inde, c'est particulièrement vrai aussi, on connaît parfois un peu moins la situation de l'Inde, mais Modi, c'est vraiment un homme d'extrême droite dur, qui a aussi contribué à réprimer gravement les grandes grèves. Il y a eu des grèves, mais extrêmement, enfin on n'avait jamais vu ça, hein, des centaines de milliers de personnes qui ont été en grève il y a environ 4 ans. Netanyahou, évidemment. Sur le « on n'a pas essayé », donc qu'est-ce que font ces gens au pouvoir ? Donc je vais vous donner quelques exemples concrets qui se passent pas très loin de chez nous. Et en fait, il y en a un auquel on pense pas en général, parce qu'on pense que c'est le pays d'Europe, le pays du monde même où on est le plus heureux, c'est la Finlande. Et en fait, en Finlande, depuis presque 2 ans maintenant, il y a une coalition entre la droite et l'extrême droite. Le parti d'extrême droite qui est au pouvoir, il s'appelle les vrais Finlandais, déjà. Donc vous voyez, vous avez compris un peu le regard. Tout ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le suprémacisme blanc aussi. Hein. Il y a cette dimension très raciste. Hein. C'est l'un des thèmes qui parcourt vos premières rencontres pour cette année. Donc le suprémacisme blanc, le racisme clairement. Et donc il y a eu d'énormes mobilisations comme le pays n'en avait jamais connu. Hein. Beaucoup de grèves et des dizaines et des dizaines et des dizaines de centaines même de milliers de personnes dans la rue. Mais il y a eu une énorme répression contre ces mouvements, contre les syndicats. Et puis il s'agit, comme partout où passe l'extrême droite, alliée avec la droite dure, de mettre en cause le droit du travail, le droit aux retraites, la liberté de la presse, le droit au chômage, le droit à la protection sociale. C'est vraiment ce qui s'est passé en Finlande au cours de ces dernières années. Par exemple, la mise en cause de l'indemnité chômage, le recul sur les arrêts maladie, tout ça c'est en Finlande avec cette coalition. Les restrictions des aides au logement, l'atteinte portée au droit de grève, etc. En Italie, on a Giorgia Meloni. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une partie, évidemment, des classes populaires, et c'est le cas partout, en fait, sinon l'extrême droite ne serait pas au pouvoir, qui a voté pour le parti de Giorgia Meloni, dont on sait qu'elle a été vraiment une mussolinienne. Elle disait quand elle était jeune qu'elle adorait et qu'elle admirait Mussolini. Mais une des premières mesures qu'a prise Giorgia Meloni va complètement à l'encontre des intérêts de ceux et celles qui ont voté pour elle, en tout cas parmi son électorat, c'est-à-dire une partie des classes populaires. Évidemment pas toutes, et évidemment que l'électorat de Meloni, ce n'est pas que les classes populaires. Mais c'est le cas. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose, c'est, comme le dit cet article, de prendre aux pauvres pour donner aux riches, c'est-à-dire, en fait, de supprimer notamment un peu l'équivalent du RMI, du RSA, d'un revenu minimum qui permet à beaucoup de familles de survivre, notamment dans le Mezzogiorno, dans le sud de l'Italie. Ah, on n'a pas essayé. Donc, en Hongrie, il y a Orban depuis plus de 10 ans maintenant au pouvoir. Et c'est vraiment l'extrême droite très très dure avec des processus de fascisation. Donc, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il y a des interdictions de publication, donc des censures contre la presse. La destruction du secret des sources pour les journalistes. Donc là, on porte atteinte à l'éthique et à la déontologie, justement, des journalistes. Les procédures Bayon, c'est-à-dire porter plainte contre des journalistes dès qu'ils critiquent le pouvoir. Bon, la censure, comme je vous le disais, toutes sortes d'intimidations, notamment contre l'opposition, contre les syndicats. Il y a eu aussi beaucoup de licenciements de personnes qui étaient syndiquées. Il y a eu beaucoup de licenciements d'enseignants et enseignantes, notamment, qui avaient manifesté contre Orban, contre les nouveaux programmes en particulier, très nationalistes, hyper nationalistes. Donc, il assèche aussi les aides publiques à la presse. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de presse indépendante, évidemment, le pouvoir, précisément, a tout pouvoir. Et il est tout puissant. Et puis c'est aussi une dimension très réactionnaire, puisqu'il a par exemple interdit la marche des fiertés plusieurs années de suite, et récemment il avait déclaré que s'il remportait les élections législatives, il le disait lui-même, il faut éliminer les rivaux politiques, les juges, les médias et les organisations non gouvernementales. Alors ça, on est vraiment pour le coup dans la fascisation, puisque je vous le disais d'emblée avec Mussolini et Hitler, les premières choses qu'ils font, c'est assassiner ou mettre dans des camps de concentration. Dans les camps de concentration, ils ouvrent dès février 1933 en Allemagne, les opposants des gauches en général. Donc le programme d'Orban, c'est ça, et ça fait 10 ans que ça dure, et c'est vraiment écrasant, parce que toutes les voix dissidentes et tous les mouvements organisés de l'opposition sont écrasés par cette machine de guerre. On va le voir aussi, j'insiste sur la question des droits des femmes, puisque l'extrême droite, contrairement à ce qu'elle parfois elle prétend dire, et bien sûr parfois elle peut être aussi diverse, mais elle est profondément réactionnaire, notamment sur la question du droit à l'avortement. Et vous êtes aussi d'une génération, si j'ose me permettre cette remarque quant à l'âge un peu majoritaire de cette assemblée, c'est une génération qui a vraiment beaucoup lutté pour les droits, et puis pour notamment les droits des femmes, et donc cette magnifique lutte pour le droit à l'IVG. Et donc, Giorgia Meloni, pareil, une des premières mesures qu'elle a prises en arrivant au pouvoir, c'est de faire des... ça c'est à Varsovie, mais on fait circuler des camions anti-IVG pour essayer de dissuader les femmes d'avorter. Et elle, comme je vous l'ai écrit là, elle fait envoyer, elle autorise les commandos anti-IVG dans les cliniques pour faire pression, etc., sur les femmes, comme on le voyait en France après la loi Veil, et comme on l'a vu encore longtemps, et c'est jamais tout à fait fini ce genre de choses. Bon, je vais vous passer ça parce que ça serait un peu trop long, je vous passe ça. Donc en fait on en est où? On est à un moment justement où, je vais revenir après sur le droit des femmes, mais où on assiste à ce genre de choses. Ça c'est où? Ça c'est à Milan, mais c'est la même chose à Rome. Voilà, vous avez des rassemblements clairement fascistes, assumés, le salut fasciste.
On a vu ça dans les rues de Paris aussi.
On a vu, je vais vous montrer des photos, absolument. Alors, il y en a un peu partout maintenant, des groupuscules clairement néo-nazis, affichés comme tels. Là, c'est à Rennes, par exemple. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a une telle droitisation, extrême droitisation, que même la plus à droite des ligues d'extrême droite comme l'Action française. L'Action française dont on pouvait parler justement en février 1934. Hein, ils sont anti-républicains, ils sont suprémacistes, racistes, antisémites. Enfin, l'Action française, c'est difficilement possible de trouver plus à droite. Et ben voilà, il y a des dissidences en son sein. Elle est débordée par sa propre extrême droite. On sait vous dire que le processus va justement très loin. Et puis, comme vous le disiez, bah oui, on en voit à Paris, on voit des lynchages, on voit de véritables chasses à l'homme, etc. Donc, des situations extrêmement graves. Là, les néo-nazis qui s'en prennent à des locaux associatifs, etc. Moi, je suis allée dans plusieurs endroits, même Bourse du Travail, par exemple Strasbourg, Saint-Brieuc, Bourse du Travail, 300 personnes, un service d'ordre formidable et très, très organisé par plein d'associations et de partis et de syndicats. Bah, il y a quand même 30 fachos, pour le coup, qui viennent avec des barres de fer et compagnie pour attaquer. Bon, ça, c'est le constat. Alors, maintenant, il faut passer au que faire. Mais dans le que faire, évidemment, je vais à chaque fois revenir sur l'analyse de l'extrême droite, parce que ça me semble faire partie de la réponse au que faire. C'est déjà d'analyser ce qu'elle est et ce qu'elle fait concrètement, et là, je vais passer vraiment plus directement à la France. Donc, c'est le premier point, c'est de ce que faire, c'est bien comprendre le programme du RN. Donc, je vais revenir, par exemple, sur le cas des droits des femmes, et notamment des droits à l'avortement. Laure Lavalette, par exemple, voilà ce qu'elle dit. Hein. Elle dit qu'il faut abroger à terme la loi sur l'avortement. Il y a plusieurs députés comme ça qui sont très clairs sur le fait qu'il faut abroger la loi Veil. Et je vais vous expliquer. Bon, elle, voilà, c'est pareil, elle dit, n'est-ce pas Jarre, c'est une cadre du RN, que c'est l'avortement tue beaucoup plus que le Covid. Encore, ça, c'est soft, parce que je vais vous montrer ce que d'autres disent. Des députés, hein, c'est pas des électeurs lambda du RN. Hein. Là, on est dans des députés. Le député de Haute-Marne, par exemple, qui dit que l'avortement, c'est un génocide de masse. Et lui, Hervé de Lépineau, hein, qui dit que, en fait, l'avortement, c'est pire que les génocides du XXe siècle, génocide arménien, génocide rwandais, la Shoah et les crimes de Daesh. C'est ça que certains députés du RN disent à propos de l'IVG. Bon. Donc, c'est vraiment très très grave. Alors, avec une misogynie, un masculinisme, un sexisme tout à fait structurel et assumé, ces gens sont des députés. Et quand Sandrine Rousseau avait fait un déplacement dans l'Aude, près de Narbonne, voilà, je vais pas lire la pancarte, mais j'imagine que vous la voyez, donc on n'a pas besoin de la lire. Mais voilà, c'est assumé complètement, parce que ce masculinisme, ce virilisme, il est aussi très attaché à cette extrême droitisation. Hein. Donc voilà, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, on a pu voir surgir l'affaire Parmentier, donc une proche députée aussi, une proche de Marine Le Pen, hein, qui n'a pas cessé pendant des années de tenir des propos racistes, des propos antisémites. Et c'est vraiment écœurant de voir que ces gens vont ensuite aller défiler à la marche contre l'antisémitisme, alors même qu'en réalité, dans leur réseau, etc., dans leur groupe WhatsApp et compagnie, ils continuent de tenir des propos antisémites parce que c'est l'ADN du Front National, Rassemblement National, hein, ce qu'avec Hugo Paletta on appelle le FNRN, parce que ça n'a pas véritablement changé, c'est juste des opérations de communication. Par exemple, ce monsieur-là, il s'appelle Frédéric Boccaletti. Donc là, c'est quoi? C'est la marche contre l'antisémitisme en novembre 2023, le 13 novembre, je crois. Je ne l'ai pas noté. Eh bien, ce monsieur Frédéric Boccaletti, il a tenu pendant des années et des années une librairie qui s'appelle Antinéa, qui est inspirée par Maurras, et qui est une librairie où on pouvait acheter des livres antisémites, des livres négationnistes du génocide des Juifs d'Europe par les nazis. Voilà, c'est ce genre de personnages hein, qui sont très proches. Lui, c'est un très proche de Marion Maréchal Le Pen. Donc aujourd'hui, il met des petites chemises et des petites vestes hein, bien propres sur lui. Mais en réalité, c'est aussi ce monsieur qui chantait des chants nazis comme Cyclone Army. Donc le Cyclone B, hein, c'est le gaz qui était utilisé dans les chambres à gaz des camps de mise à mort. On a pas mal entendu quand même parler, et ça c'était intéressant, parce que la campagne de l'année dernière, avec la difficulté que ces gens avaient de trouver des candidats et des candidates, bah, ça a permis de révéler ce que sont ces cadres du RN, comme cette femme qui porte une casquette nazie assumée. Et en fait, voilà, il y aurait beaucoup d'exemples pardon, à vous montrer. On ne parle pas même pas d'élus locaux, on parle vraiment de cadres. À des échelles départementales et régionales. Cette dame, par exemple, on la retrouve avec un t-shirt qui est un t-shirt suprémaciste blanc, un t-shirt qu'on peut nommer racialiste, au sens où c'est des gens vraiment qui pensent qu'il y a une hiérarchie des races et qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et donc, justement, dans le groupe, ça a été révélé aussi il n'y a pas très longtemps, dans le groupe Facebook officiel de Jordan Bardella, eh bien, racisme, antisémitisme, et c'est vraiment commun. Hein, l'antisémitisme n'a pas du tout disparu, comme je le disais, dans ces rangs-là. Bah, vous voyez, hein, les sauvages, des animaux enragés à battre. Et ça, c'est dans le Facebook officiel de Bardella. Et ça n'avait pas été retiré ni quoi que ce soit. Il n'y avait eu aucune procédure pour faire retirer ces postes jusqu'à ce qu'une partie de la presse, notamment Mediapart, mais pas que, le révèle. Je ne vais pas pouvoir vous donner toutes ces éléments, mais voilà, sur l'antisémitisme, un syndicat, l'UNI, hein, c'est un syndicat qui était traditionnellement syndicat de droite dans les universités, mais qui maintenant s'est extrême droitisé aussi, et qui avait sorti il n'y a pas très longtemps un jeu de cartes qui était clairement un jeu de cartes antisémite. Alors, donc ça, c'est droits des femmes, racisme, antisémitisme. Contrairement à la couverture que veut se donner l'ERN, c'est toujours très structurel. Maintenant, ce qu'il faut vraiment regarder de très près, c'est aussi le programme sur le plan social et économique du Rassemblement national. Le programme est par ailleurs aussi ce qu'ils votent, parce qu'on le sait, d'accord ? Ça, c'est documenté, ce sont des faits, hein, je ne l'invente pas. Donc là, je vais vous donner des votes du RN sur certaines mesures, tout ce contre quoi ils votent, alors que même que son électorat populaire serait absolument pour ces mesures. Donc je vous donne des exemples. Par exemple, l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est quand même, quand vous voyez les gilets jaunes, les soulèvements populaires, etc., l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est majeur dans une situation de crise économique, de détresse, de désarroi social. Eh bien, il a voté contre le RN, les députés du RN. Le blocage des prix des produits de première nécessité, pareil. Voilà, les députés du RN votent contre. L'augmentation du SMIC, ils votent contre également. La gratuité des cantines scolaires pour les plus modestes, ils votent contre. Les bourses étudiantes, c'est forcément, comme leur nom l'indique, pour des étudiants et étudiantes de familles modestes, populaires. Ils ont aussi voté contre la revalorisation. La taxe sur les super-profits. Donc en fait, ils font des grands discours sur le système, etc., mais en fait, ils votent contre tout ce qui, d'un point de vue fiscal, on l'a encore vu il n'y a pas très longtemps avec la taxe Zucman, ils ne sont pas d'accord avec la taxe Zucman, alors que quand même, la taxe Zucman, il n'a pas un couteau entre les dents, Zucman, hein, je veux dire, c'est pas non plus les bolcheviques, hein. Donc voilà, et là aussi, très important, parce qu'ils s'installent beaucoup via la coordination rurale dans les campagnes, mais n'empêche que quand la gauche propose des mesures réelles pour aider les éleveurs qui sont dans des situations vraiment monstrueuses, le RN vote contre aussi, d'accord ? Donc, pareil, ils n'ont pas voté pour l'abrogation de la loi sur la réforme des retraites. Alors même qu'ils faisaient mine de ne pas être d'accord, etc. Mais en fait, quand ils sont amenés à voter, eh bien, ils ne votent pas dans un sens social. Le nouveau Front Populaire, l'année dernière, avait proposé un impôt plus progressif, et donc faisant payer les plus riches en 14 tranches, plus de tranches, plus de progressivité, et voilà. Pareil, ils nous ont voté contre, et puis alors ils ont voté aussi contre la destitution d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que tout leur discours anti-système, etc., c'est quand même vraiment un rideau de fumée hein, sur la taxe Zucman, comme je vous le disais, hein. Ça consiste à une taxe. Roosevelt, il avait taxé à 70% hein, les impôts pour les plus riches hein, dans le New Deal. Et pourtant, Roosevelt, il était quand même un capitaliste. Hein, voilà, il voulait faire repartir la machine capitaliste, etc. Mais là, c'est une taxe de 2%. Hein, Et ils ont voté contre. Hein. Ils se sont abstenus. Hein, prudent. Et alors, dans leur programme aussi, on voit justement ces écarts. Par exemple, 87% des sympathisants du RN sont pour le retour de l'impôt sur la fortune. C'était un des mots d'ordre d'ailleurs des Gilets jaunes, il y en avait beaucoup d'autres. Mais le RN vote contre le retour de l'ISF. Énorme. Il y a aussi une énorme proportion de l'électorat du RN qui sont pour taxer les grandes entreprises. Le RN est contre. On va y revenir parce que le RN est vraiment une organisation de soutien au patronat et notamment au grand patronat et notamment en fait pour employer un gros mot au capital, d'accord, 90% des gens qui votent RN qui sont pour l'indexation des salaires sur les prix et comme je l'ai dit donc le RN vote contre et en fait dans son programme par exemple en termes de fiscalité on voit que c'est une politique fiscale qui vise à favoriser les plus riches concrètement non seulement ils sont pour la suppression de l'impôt sur la fortune, mais ils veulent encore aller plus loin puisqu'ils veulent aussi la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière. Ils sont pour la suppression de l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt sur les sociétés, c'est vraiment justement un rapport au capital, donc pour les moins de 30 ans, ils sont contre cet impôt, et ils veulent aussi Alors là, bah, discours classique de la droite, exonérer les deux cotisations patronales qui n'hésiteront pas, eux, dans leur vocabulaire, à appeler, bien sûr, des charges. Bon, d'accord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, exonérer les cotisations patronales? Bah, ça veut dire piller encore davantage la sécurité sociale, qui est notre trésor commun, dont on dira jamais assez que c'est bah, vraiment, oui, un trésor absolu de notre histoire et de notre humanité. Donc, c'est pas étonnant, en fait, qu'on puisse établir, il y a des économistes qui ont pu établir, que si le RN arrivait au pouvoir et appliquait son programme, ben, ça enrichirait 10% les plus riches et ça appauvrirait les plus pauvres. C'est clair. Donc, le RN ponctionne les pauvres pour redistribuer aux plus riches. Et encore une fois, on le voit en Italie, dans l'Italie de Giorgia Meloni. Donc ça, je pense que c'est aussi de ça qu'il faut discuter concrètement avec tous les gens qui nous disent « on n'a pas essayé, nous on a envie de voter RN parce qu'ils vont tout changer et ça va être trop bien notre vie avant. » Après, plus précisément. Mais bon, quand on va le voir, malheureusement, parfois ça ne suffit pas de parler du programme, mais on pourra en reparler notamment dans la discussion. Donc pareil, on ne s'étonne pas du tout que beaucoup de représentants patronaux, et je ne vous parle pas du traiteur où on est allé, c'était si délicieux, hein, je ne sais pas de ça que je suis en train de parler, mais vraiment des grands patrons, d'accord ? Qui sont vraiment tentés, et plus que tentés, il y a plein de déjeuners d'affaires entre des représentants du RN et à l'extrême droite. Il y a d'ailleurs un article qui est paru il y a quelques jours dans l'UMA, hein, qui repartait d'une enquête justement sur les patrons qui murmurent aux oreilles du Rassemblement National, qui influencent aussi directement le Rassemblement National. Le Rassemblement National n'est pas un parti populaire, et en tout cas n'a pas un programme populaire. Ça, c'est clair et net. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a des gens comme Pierre-Édouard Sterrin. Il y a environ un an, je pense que personne n'en avait véritablement entendu parler, sauf vraiment des initiés. Grâce à justement l'enquête de l'UMA, on a pu établir son projet, qui est notamment d'infiltrer tous les milieux avec beaucoup d'argent, et de faire gagner le RN l'année prochaine aux élections municipales. Ça va être un enjeu gigantesque. Je ne vais pas revenir là-dessus sur qui sont les assistés, parce qu'on a tous discours. C'est aussi tout un discours qu'on peut entendre chez les électeurs du RN sur les assistés, les cas sociaux, hein, comme ils disent, hein, plus précisément, les cas sociaux, etc. Donc, les assistés, on peut aussi retourner l'argument. Hein. Qui sont les assistés? C'est d'abord les milliardaires qui reçoivent énormément, justement, et d'exonération, et qui par ailleurs pratiquent évidemment l'évasion fiscale, etc. En fait, les impôts en France, comme ont pu le montrer plusieurs économistes spécialistes de fiscalité, c'est quand même de la gnognotte pour les plus riches, quoi. 2% d'impôts pour les plus aisés, hein. Par exemple, Jean Gadret, et lui non plus, c'est pas un bolchevique, hein, je peux vous dire, Jean Gadret, un économiste, et il dit, c'est l'assistanat des riches qui nous coûte un pognon de dingue, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, notamment en raison de la fraude et de l'évasion fiscale, mais là, il dit, c'est 150 milliards d'euros par an, hors fraude et évasion fiscale. C'est-à-dire tous les cadeaux qui sont faits, justement, aux plus riches, en termes d'exonération, en termes d'impôts, etc. Bon. Les niches fiscales, les baisses d'impôts, les cotisations sociales, etc. Bon. Alors, il y a une responsabilité aussi. J'aime bien cette formule, évidemment. Là, sans doute, vous avez quand même en tête, c'est pas le cas toujours, parce que c'est un film de Louis Malle dans les années 60, Ascenseur pour l'échafaud. Mais donc, ce jeu de mots est quand même assez pertinent. Un ascenseur pour les fachos, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de porosité. Ce qu'on voit, c'est que l'extrême droite, elle dicte de plus en plus son agenda. La droite qui va s'aligner sur elle. Et c'est pas. Et la droite, et quand je dis la droite, bon, j'inclus les macronistes. Hein. Bon, j'espère que les macronistes de la salle me pardonneront. Et on en discutera. Donc par exemple, Nadia Hay, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, elle était secrétaire d'État dans un des gouvernements Macron. Et elle a dit à propos de la loi dite Darmanin, la loi immigration. On l'a donné sur un plateau d'argent au Rassemblement National. Elle a dit, elle s'est adressée aux élus du RN en disant, mais ça faisait des dizaines d'années que vous attendiez ce genre de loi et on vous l'a apporté sur un plateau d'argent. Donc au moins les choses sont claires. Et en fait, ces gens de la droite là, ils sont tout à fait prêts maintenant à gouverner avec l'extrême droite. Donc je vous en donne des exemples. Hein. Lui, par exemple, il est membre de Horizon. Donc Horizon, vous voyez, c'est l'organisation d'Édouard Philippe, là, hein, qui se présente comme un président sociable potentiel. Bon, bah, ça, c'est le chef du groupe parlementaire Horizon à l'Assemblée nationale. Et voilà ce qu'il dit. Hein. Oh oui, les critiques du Rassemblement national, c'est des jugements moraux très parisiens. Donc à Montluçon, par exemple, non, on ne pense pas qu'il y a un problème avec le RN. Donc il dit non, tout ça, c'est parisien, là, ceux qui critiquent le RN. Et nous, nous sommes prêts à travailler avec le RN. Ça, c'est Horizon. Ça, c'est Édouard Philippe. Donc voilà, c'est de plus en plus... pour eux, justement. Et puis, bah, alors là, la machine de guerre médiatique, on va pouvoir y revenir aussi. Hein. Comment ils vont porter telle ou telle personnalité? Ils l'ont fait évidemment pour Emmanuel Macron. Et là, il y a eu aussi tout un temps autour de Retailleau, parce que Retailleau, il est complètement RNO compatible, en fait. Hein. C'est pas anodin que, par exemple, Valeurs Actuelles, qui est là aussi un torchon d'extrême droite, nous dit et si c'était lui? Voilà, c'est vraiment une fabrique médiatique des candidats qui plaisent à ce système. Et voilà, et donc, donc je vous parlais d'époque orwellienne, voilà, mais Retailleau, c'est la course à l'échalote, hein. Donc c'est qui va être encore plus à droite que l'extrême droite. Donc là, bah, Retailleau qui nous dit, ah, non mais quand même, le programme du RN, il est vraiment très à gauche, hein. nous on est vraiment bien bien à droite, Donc ça aussi, bah, c'est comme je vous le disais, c'est vraiment un miroir aux alouettes, hein, que d'essayer de faire croire qu'il y aurait un vague bain de gauche dans le programme du RN. Donc ça, c'est leur programme. Donc moi, je pense que c'est très important d'être précis dans nos discussions autour de nous sur les gens qui veulent voter RN. Dire voilà ce qui se passerait. Comme je le disais, malheureusement, ça ne suffit pas forcément parce qu'avec justement cette machine, pardon, je dis plusieurs fois machine de guerre médiatique, mais quand je vous parlais tout à l'heure de colonisation des esprits, moi je le vois vraiment comme ça. Des médias qui avancent au bulldozer, qui avancent au rouleau compresseur, et notamment sur le racisme, justement. Ça a été très bien montré notamment par Félicien Faury, qui a étudié l'électorat du RN, et qui montre très bien que maintenant, l'un des critères, c'est pas le seul, mais c'est vraiment un des critères principaux du vote RN, c'est le racisme. Et donc, finalement, y compris avec des personnes qui vont dire, oui, qui vont par exemple écouter tout ça, oui, bon, bah d'accord, mais au moins, on n'aura plus ces étrangers, là. On n'aura plus, pour être clair, ces Arabes et ces Noirs. C'est monstrueux. C'est ça qui est vraiment monstrueux. Et donc, en fait, face à cette machine médiatique, c'est le deuxième point du que faire, hein, c'est vraiment aller dans le sens de médias indépendants. Il faut arrêter cette folie furieuse de ce que sont devenus les médias et le paysage médiatique. Tout ça, c'est pareil. Hein. Orwell, on en a déjà parlé. En fait, c'est comment le vocabulaire de l'extrême droite contamine complètement la sphère médiatique. Par exemple ici, la remigration. Bah, c'est quoi la remigration, hein? En fait, c'est de l'épuration ethnique. Hein. C'est des déportations. Hein. C'est chasser les gens de là où ils vivent et là où ils travaillent et là où ils sont avec leur famille. Eh bien, voilà, la CLCI, votre champ, remigration, la solution italienne. Bah, oui, c'est une solution sur la remigration et tout. Au point que lui, un autre facho, là, vraiment Damien Rieux, il dit « La remigration est devenue un terme banal, même LCI l'utilise. » Ben voilà, donc ils triomphent, en fait, parce que leur vocabulaire est passé banalement dans une chaîne qui est une chaîne du groupe Bouygues. Il n'y a pas que Bolloré, justement. Bon, à un moment, je me suis fait des pleins de débats de Bardella, là, l'année dernière, j'en ai écouté vraiment beaucoup. Le pire, le plus douloureux, c'est vraiment celui-là. Alors, parce qu'il y a tout, là. Donc, on est officiellement avec un socialiste, c'est bon. En fait, Manuel Valls, donc il n'est pas du tout socialiste, mais voilà. Et qui dialogue où au Figaro TV. Et le Figaro TV, mais c'est vraiment maintenant un marchepied du RN. Donc lui, là, Alexandre Devecchio, donc voilà, il est rédacteur en chef. Et en fait, ils sont tous les deux là, ils sont d'accord sur tout. Et vraiment, ça dure une heure. Et alors évidemment, ils vont que sur les terrains du RN, c'est-à-dire immigration, insécurité, islam. C'est les trois piliers du RN. Et une fois sortis de là, parfois, de toute façon, il n'y a rien à dire. Et donc, à un moment, lui dit, oh, on va peut-être parler d'un autre sujet. Oh, ben non, quand même, on est bien, là, on est bien. Et puis voilà, ils sont bien. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, alors, ces deux esprits libres, voilà comme ils sont présentés, ces deux esprits libres. Et puis, c'est pas Bardella, c'est pas l'extrême droite pour le Figaro. Non, c'est la droite hors les murs. Voilà, c'est. En fait, c'est des euphémismes, c'est beau, voilà, c'est la droite hors les murs. Qui, voilà. D'accord, mais donc en fait c'est très violent. Mais c'est partout en fait, c'est pas que des médias privés de type Bolloré ou Bouygues. Ça c'est le service public. Et en fait, là on a Thomas Soto qui devise bien tranquillement avec Bardella. Et en fait ils discutent, vie privée et tout. Enfin, en fait c'est fait pour dépolitiser. D'abord c'est une dépolitisation, hein, parce que jamais on ne parle de leur programme en réalité, surtout une fois sorti de justement insécurité, immigration, islam comme je le disais, jamais on ne parle de leur programme véritable, toute la première partie du que faire, hein. Et puis c'est une forme de banalisation, respectabilisation, notabilisation, starification. Bardella, il a été complètement starifié, il est vraiment apparu comme une sorte de vedette rock. Je vous donne un exemple précis, et là, on est sur le service public. D'accord ? On est sur France Info TV. Elle s'appelle Alix Bouillaguet. D'ailleurs, Alix Bouillaguet, elle a été reprise il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle a raconté n'importe quoi lors d'une interview avec Manuel Bompard. Mais là, par exemple, donc elle est face à ce gros méchant. Là, vraiment, c'est Jacobelli, numéro 3 du RN, notamment sur les listes européennes. Et ils sont en train de parler, en fait, des Noirs et des Arabes, hein, même s'ils ne le disent pas comme ça, mais c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle, c'est pas lui qui le dit, c'est elle, Alix Bouillaguet, une des éditorialistes de France Info TV. Elle dit, ils sont français, il faut faire avec. Ils sont français, il faut faire avec. Donc voilà, vraiment, elle va complètement sur son terrain. Bah ouais, mais c'est bien dommage, mais qu'est-ce que vous voulez faire puisque eux, ceux-là, là, ils sont français. Donc ça, c'est le service public. Et puis bien sûr, bah, ils sont partout, partout, partout. Alors, on parlait cordon sanitaire en Belgique, en Wallonie du coup, enfin... Wallonie, Wallonie, comme vous voulez, ils ont le cordon sanitaire, donc l'extrême droite, elle n'est pas présente dans les médias. Eux, ils occupent tous les plateaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors, du coup, j'aime bien ce dessinateur qui les caricature ici, parce qu'ils disent voilà, nous, le système veut nous faire taire, etc. En fait, il n'y a jamais eu autant de micros qui auraient été tendus à des personnages politiques qu'aujourd'hui au Rassemblement National. Et donc, évidemment, avec l'appui de Bolloré, et on l'a vu avec la fabrication de Zemmour comme personnage politique, et plus il est condamné, donc il est condamné, mais en fait, qu'est-ce que ça change ? De toute façon, Bolloré, c'est comme si vous donniez 50 centimes, en fait, pour Bolloré, les condamnations de Zemmour, les condamnations de CNews, les condamnations d'Hanouna, c'est... Au contraire, ils s'en servent presque comme une sorte de martyrologue, et puis c'est pour montrer que le système est méchant, et que donc il faut lutter contre le système et privatiser... et privatiser l'audiovisuel public. Donc Rachel Kahn, par exemple, bon, bah, alors, elle est censurée dans plein d'endroits. Pourquoi ? Parce que, enfin, censurée, elle n'est plus trop invitée parce qu'on s'est aperçu que c'était... Elle copiait phrase à phrase ses chroniques. C'est vraiment une plagiat incroyable. Bon, ça, c'est une chose. Mais voilà ce qu'elle dit. Mais c'est tout à fait ça, l'ambiance. C'est, bon, l'extrême droite, ça ne veut plus rien dire. En fait, il n'y en a pas d'extrême droite. Il n'y en a pas d'extrême droite, à leurs yeux, sur ces news. Non. Et s'il y a une extrême droite ou s'il y a des fascistes, bah, c'est Mélenchon. Bon, ça, on va aussi y revenir. Donc, du coup, bah, la dépolitisation, c'est ça aussi. Voilà, on va nous parler des chats de Marine Le Pen, on va nous parler des hommes de la vie de Marine Le Pen, etc. Mais pour bah, toujours enlever le nerf politique de tout ça. Et là, vous avez vu franchir un cap très clair quand Jean-Marie Le Pen est mort, puisque là, en fait, il a été érigé en grand homme. La une de Paris Match, c'était ça, c'était quand même une histoire française. Voilà, Jean-Marie Le Pen, une histoire française. Et du coup, à Sciences Po, alors je précise, c'est pas les profs de Sciences Po Paris ou la direction de Sciences Po, mais à un moment, il y a des étudiants, alors ils sont minoritaires, hein, mais qui ont rebaptisé un amphithéâtre, amphithéâtre Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc là, c'était en mars de cette année. Donc face à ça, bah oui, on a besoin de médias indépendants, on a besoin de soutenir, il faut soutenir les médias, s'abonner un maximum de journaux, l'Humanité évidemment, parce que eux, pour le coup, ils ont fait une qui était très claire quand Jean-Marie Le Pen est mort, notamment avec le poignard qui lui a servi tuer des Algériens pendant la guerre d'indépendance algérienne. Street Press, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment excellent. Ils font des enquêtes remarquables, notamment sur tous ces petits groupes néo-fascistes, néo-nazis, etc. C'est vraiment des journalistes de grand talent et très très courageux. Donc il y a des possibilités de souscrire, etc. Et donc, revenir justement à ce que disait le programme du CNR, le programme du Conseil National de la Résistance. On peut avoir un programme sur la question des médias. Et le CNR avait des mesures. Et le CNR disait notamment, bah, il faut mettre les médias à l'abri des puissances de l'argent. C'est très très important pour la démocratie en fait. Même si on n'est pas de gauche ou je sais pas quoi, là c'est vraiment une question de démocratie. Une démocratie, elle meurt si elle n'a pas des médias indépendants, parce que évidemment c'est par là qu'on entre dans la chose politique. Donc là je vous ai mis une série de mesures qu'on pourrait prendre concrètement. Renforcer le statut juridique des rédactions, c'est-à-dire renforcer l'indépendance des journalistes, y compris par rapport aux propriétaires de médias. Titulariser aussi les précaires, bah ça c'est comme partout, et en l'occurrence c'est important aussi pour que les journalistes ne soient pas soumis à ces milliardaires. Réprimer toutes les entraves au travail journalistique, faire un conseil national des médias, et notamment avec des usagers, une commission de déontologie où il y aurait justement des usagers, et faire une loi vraiment anti-concentration. Parce que là, il y a 11 milliardaires, vous le savez, hein, qui détiennent l'écrasante majorité des médias français, quels qu'ils soient. Et aussi, ça me paraît très important par rapport à ce qu'on vient de dire sur Zemmour, Hanouna, les condamnations, etc. C'est que, En fait, ces médias continuent, même une fois condamnés, à recevoir des aides publiques. Donc nos impôts, ils vont aussi dans ces médias. Dès qu'il y a une incitation, une condamnation pour incitation à la haine, etc., notamment à la haine raciale, il ne devrait plus y avoir d'aide publique. Et puis surtout, il faudrait que ces amendes, c'est un autre point, elles soient fonction du chiffre d'affaires. Parce que sinon, encore une fois, les Bolloré et les Bouygues, ben, qu'est-ce qu'ils s'en fichent qu'il y ait quelques petites amendes, même quand c'est, je crois que c'est allé jusqu'à 200 000 euros. Mais pour eux, c'est vraiment une pichenette. Bon. Et favoriser les radios locales, les chaînes associatives, etc. Voilà. D'accord. Alors, un troisième point qui sera plus court, hein. Je vous rassure, je vais pas tarder à conclure. Ça, c'est un petit artifice rhétorique. Hein. C'est pas vrai que je vais conclure maintenant, mais c'est pour vous rassurer. Comme de toute façon, Pierre a déjà déjoué le temps de parole. Voilà. Mais se fédérer. Alors là, je vais aussi mettre les pieds dans le plat. Comme je vous disais, moi, je suis pas à la France insoumise, mais je trouve abject et extrêmement grave le sort médiatique et politique qui est réservé à cette organisation. Et je trouve terrible qu'il n'y ait pas eu parfois des moments de solidarité. Bien sûr, il y a des divergences, il y a des débats, il y a des... Voilà, bon. Et puis, il y a toute cette politique qu'on n'aime pas en général, de querelles de chapelle, etc., de compétition. Bon. Mais quand un parti... Bon, ça, je pourrais vous en faire la démonstration sur cette question de l'accusation d'antisémitisme. Quand un parti est appelé le premier parti antisémite de France à propos de la France insoumise, c'est dégueulasse. C'est vraiment... Mais c'est horrible. Et c'est horrible déjà pour la lutte contre l'antisémitisme. C'est vraiment horrible parce que ça veut dire que rien n'a de sens, en fait. Si on accuse LFI d'être antisémite, plus rien n'a de sens. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, je pourrais vous donner des arguments, mais ce n'est pas le fond de mon propos. Je pense que, en fait, il faudrait vraiment qu'il y ait une solidarité minimale de la gauche, dès qu'il y a des attaques comme ça. Même qu'on n'est pas d'accord, et même on peut dire, non, mais attends, l'affiche, là, sur Hanouna, ça n'allait pas. Ok, on peut dire ça, mais premier parti antisémite de France, quelque chose qui vise à tuer, à créer une mort sociale et politique d'une organisation... c'est tellement grave, y compris encore une fois pour la démocratie, que les gauches devraient réagir indépendamment de leurs querelles et de leur concurrence entre elles, parce que c'est bien le problème. Moi j'aime beaucoup ce mot de fédérer. C'était d'ailleurs le nom des femmes et des hommes de la Commune de Paris en 1871. Hein. Ils ne s'appelaient pas les communards. C'est plus tard que, bah, soit c'était leurs ennemis qui les appelaient les communards, soudards, braillards, etc., communards. Mais eux ils s'appelaient les fédérés. Ils avaient beaucoup, pardon, je reste encore là-dessus, ils avaient beaucoup de divergences entre eux. Il y avait des collectivistes, il y avait des proudhoniens, il y avait des marxistes, il y avait des jacobins, il y avait des libertaires, mais ils se sont fédérés pour la commune. Et nous, on n'est pas capable de ça, alors qu'on a l'extrême droite, soit déjà au pouvoir, soit aux portes du pouvoir. Ouais, je vous donne un exemple, puisqu'on parlait de Gérard Mordilla, c'est ce que je vous disais, Pierre, tout à l'heure. En fait, ça, c'est un exemple où on était à Limoges il n'y a pas très très longtemps. C'était énorme. Enfin, bon, moi, je vais dans plein d'endroits. Enfin, c'est pas pour dire dans ces endroits, voilà, mais plein d'endroits qui signifient que partout, il y a des initiatives contre l'extrême droite. Par exemple, là, je suis allée dans une petite ville du bassin minier dans le Pas-de-Calais, le vote pour Bardella aux législatives, c'était vraiment 65%. Et il y a un superbe collectif antifasciste, ils organisent plein de choses, etc. Enfin, c'est vraiment... énorme. Comme je disais, voilà, ça devrait pas être tolérable qu'il y ait un tel acharnement. Voilà, c'est pas possible de considérer que Mélenchon puisse à ce point subir ces attaques permanentes et qu'on le construise comme une espèce de Hitler nouveau. Bon, j'aime bien ce dessin aussi de Pascal Gros. On a le renne, hein, le grand méchant loup, qui dit au petit Gérard, fais bien attention à Jean-Luc Mélenchon en traversant la forêt. Non mais voilà, c'est exactement ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Bon, ça, par ailleurs, ça c'est de la com, c'est de la fabrication médiatique. Comment il est toujours, toujours présenté. Alors en fait, c'est même pas mon problème. Et moi, les grands hommes, les gourous, etc., ça ne m'intéresse pas. Mais moi, mon problème là, c'est comment les médias fabriquent l'image de LFI et de Mélenchon. Donc là, c'est quoi? C'est un article de Bernard-Henri Lévy. Il était très clair, c'est pas du second degré. C'est écrit, il faut diaboliser Mélenchon. Ça, c'est dans le point. Il explique clairement, d'accord? Voilà, Bernard-Henri Lévy, il dit... LFI, c'est des fascistes. Donc, c'est pour boucler la boucle par rapport à ce que je vous disais au départ et la dimension orwellienne. Le diable Mélenchon, d'accord? Le cannibale Mélenchon. Mais c'est pas du second degré, c'est pas l'ironie, c'est pas de l'humour. Quoi qu'on pense de cet homme politique, qui tient une ligne, voilà, il tient une ligne. LFI tient une ligne sur l'antiracisme, justement, sur les questions sociales, sur les questions de droit au travail, sur les questions de retraite, plein de choses, sur la sécurité sociale, sur la Palestine. Voilà, ils tiennent une ligne. Et donc, je pense que ça explique cet acharnement quand même terrible. En fait, pourquoi ? C'est parce que ces gens, en fait, ils considèrent qu'une gauche qui arriverait au pouvoir, et là, on n'était pas très loin l'année dernière, puisque le NFP était majoritaire à l'Assemblée, mais ça serait la déraison. Voilà, le programme de gauche, c'est la déraison. Donc, on a pu le savoir après que les grands patrons, dont Bernard Arnault, qui est très proche de j'allais dire de Mélenchon, de Macron, voilà, c'est surtout pas la gauche. Il avait dit vraiment surtout pas la gauche, voilà. Il a utilisé tout son pouvoir pour éviter au pays un gouvernement de gauche, c'est clair. Donc, avec toutes les combinaisons complètement faibles qu'on a eues et qui reviennent à la 4ème République, etc. Voilà, bon, enfin, donc, voilà. Et puis, deux choses pour terminer. Que faire, c'est aussi des luttes. Et des luttes, il y en a énormément, des formes de résistance. Alors, il y a eu des grandes mobilisations. Déjà, évidemment, l'antiracisme, hein, voilà, c'est, il faut que la honte change de camp. Et ça, c'est ça qui est un enjeu aussi très difficile, comme je vous le disais, parce que l'électorat maintenant du RN, il est ouvertement raciste. Il est assumé comme raciste, même si parfois ils vont dire « Ah non, je ne suis pas raciste », mais de plus en plus, ils disent « Non, moi, je suis raciste ». Parce que là, on a eu quelque chose avec les CNews et compagnie où c'est devenu respectable d'être raciste et c'est devenu aussi respectable, tout à fait banal, de voter Rassemblement National. Alors, vous vous souvenez du 21 avril 2002 où il y avait, enfin, et le 1er mai, etc., il y avait énormément de gens dans la rue. Est-ce que c'était encore la honte de voter Front National ? Et là, c'est plus le cas du tout aujourd'hui. Donc, y compris dans tous les combats, en fait, féministes, antiracistes, autant qu'il le faudra, mêler les luttes et les décloisonner. Ça, c'est très important. Quel rapport, vous allez me dire, quel rapport. Louise Michel, qu'est-ce qu'elle a, lui là, bon, Jean-Michel Blanquer. D'accord, et bien le rapport, c'est juste celui-là, moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel. C'est lors d'une manif contre la réforme des retraites en 2020. La commune, oui, la commune de Paris, hein, Louise Michel, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, notre République a des rois par milliers. Notre république, donc c'était la 3ème république quand elle est revenue de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Vous avez beau appeler ça de tous les noms possibles, ils sont les mêmes, ce sont donc des empires autrement habillés. Et je trouve que ça va très bien pour la 5ème république et singulièrement pour Emmanuel Macron. Voilà, ce sont des empereurs autrement habillés, il y a des rois parmi eux, etc. Donc elle disait aussi liberté, égalité, fraternité. Il faut maintenant la réalité de ces mots partout inscrits et qui nulle part ne sont en pratique. Et c'est aussi ce que disait un autre protagoniste de la commune que j'aime vraiment beaucoup, qui est beaucoup moins connu que Louise Michel, qui s'appelle Maxime Villaume. Et il disait « Liberté, égalité, fraternité, c'est beau comme devise, dommage que ce soit platonique. » Donc en fait c'est ça aussi dans les luttes, c'est voilà, liberté, égalité, fraternité, sororité, solidarité, c'est pas de la gnognotte et c'est pas juste inscrit sur le fronton des mairies, même si c'est aussi très important ce que font des gens bien dans les mairies. Donc vive la commune, oui, c'est pas le fétichisme du passé, mais c'est l'idée des biens communs. Voilà, qu'on a des biens communs et qu'il faut les préserver et qu'il faut lutter dans cette perspective. Et les gens qui votent RN, s'ils en savaient un peu plus par nos propres médias et par nos propres paroles, en fait, sur tout ça, sur un projet qui soit vraiment d'égalité et d'émancipation et de justice sociale, bah, comme ça, on a vu un petit peu quand même pendant le mouvement des Gilets jaunes, justement, débranche ta télé, enfile ton gilet. Même si le mouvement des Gilets jaunes, il était très divers, mais il y avait quand même beaucoup de volonté de justice sociale. Et donc, voilà, y compris par rapport aux médias. Assis, pas bouger, pas lire, pas penser, pas réfléchir. Donc là, c'est vraiment l'essence, c'est aussi le nerf de la guerre. Et donc, dans les manifestations, il y a tellement, justement, cette inventivité autour des slogans, mais qui porte une parole politique. Voilà, reprenons la parole, reprenons le pouvoir, se sentir légitime à faire politique, à faire du commun. Et c'est pas eux qui gouvernent, voilà, c'est pas ça la démocratie. J'aime beaucoup ce que j'avais vu sur ce dos de gilet jaune. Nous sommes tous des hommes et des femmes politiques. Des femmes et des hommes politiques. Ça me paraît vraiment aussi très essentiel. D'avoir une autre vision de la politique, mais c'est un peu ce que vous faites au travers de l'association, c'est de la politique, c'est de la mise en commun. Voilà, et c'est être légitime, on est légitime. En fait, quand on réfléchit, quand on s'y met, quand on travaille un sujet, etc., eh bien, on a un projet politique très très clair, hein. Voilà, et donc c'est ce qu'on a vu pendant le mouvement Loi Travail, vous volez nos vies, etc., etc. Enfin, tous ces slogans, en fait, je ne veux pas mourir sur scène, il recule l'âge de la retraite et avance l'âge de la mort. Enfin, en fait, c'est aussi, il y a de la joie dans les luttes sociales, il y a de la créativité, il y a de l'inventivité, il y a de l'art, etc. Mais il y a aussi beaucoup de politique. Ça, c'est une lutte exemplaire, hein. C'est la lutte, c'était une grève qui a duré des mois, la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris. Voilà, elles avaient tout contre elles, en fait. Des contrats hyper précaires, une surexploitation, le racisme, des femmes qui sont souvent isolées. Parfois, elles n'écrivent pas le français, etc. Et avec, il y avait l'essence même d'une grande histoire des luttes sociales et des luttes ouvrières, puisqu'il y avait tout de suite caisse de grève, syndicalisation, solidarité. Elles sont allées dans plein d'endroits. Il y avait beaucoup de gens qui venaient les soutenir, etc. Et elles ont tenu. Elles ont fait plein de choses. C'était incroyable. Et donc, on en a parlé. Mais il y en a plein en fait des luttes sociales. En Inde, je vous le disais, c'était gigantesque. Il y a eu des centaines de milliers de personnes en grève. Et encore récemment, à Belgrade, on n'en a pas trop entendu parler, mais bon, c'est quand même énorme. Et donc, la dernière chose, c'est justement, mais ça sera plus court, mais je vous redis, c'est plus pour nous raviver la mémoire. Ça, je le dis en particulier parce que parfois j'entends maintenant, mais nous, on n'a pas de projet. À gauche, on n'a pas de projet. Eux, ils en ont un, en fait, mais c'est pas vrai. Enfin, je comprends même pas cette phrase. Des mesures, on en a beaucoup, et des mesures immédiates et des mesures plus fondamentales. Bon, alors là, j'en mets quelques-unes sur justement la question de se nourrir dignement, pouvoir vivre dignement. Sur les produits de première nécessité, évidemment abroger les contre-réformes, réduire le temps de travail sans diminution de salaire pour mieux travailler et travailler tous et toutes, augmenter les salaires évidemment, les minima sociaux, une véritable politique du logement, et ça c'est très important aussi, notamment par rapport à ce vote Rassemblement National, c'est soutenir, être solidaire de l'artisanat et du commerce de proximité. La Commune de Paris, elle a fait beaucoup en ce sens par exemple, c'était vraiment fondamental. Le Front Populaire aussi, dans une certaine mesure. Des transports gratuits, étendre le principe de la sécurité sociale. Parce qu'on parlait de trésor commun, la sécurité sociale, c'est incroyable, parce que ça peut nous montrer qu'on peut ne pas passer par le capitalisme pour vivre, en fait. Donc, être fondé sur la solidarité. Et donc, c'est là que je voulais dire juste, mais vraiment 20 secondes, de quelques mots sur la sécurité sociale de l'alimentation. Un livre vraiment magnifique, écrit par Laura Petersel, Kevin Sertenay. Kevin Sertenay, c'est un paysan qui, dans une association de type Réseau Salariat, vous connaissez peut-être Réseau Salariat, Bernard Friot. En fait, leur idée, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire faire comme si, comme quand on a notre carte vitale pour aller chez le médecin ou à la pharmacie, mais là, pour se nourrir, et se nourrir bien. Ce qui tire plein de fils, et notamment, ça tire des fils écologiques, évidemment, des fils sociaux et des fils internationalistes, parce que ça évite d'aller exploiter des terres dans une prédation du vivant ailleurs. Donc c'est, en fait, ce serait des fermes qui seraient agréées, comme il y a des médecins agréés, d'accord, conventionnés, des paysans. Alors eux, leur modèle, c'est des paysans qui seraient d'ailleurs des fonctionnaires, en fait, qui seraient rémunérés par la puissance publique pour éviter justement la détresse des paysans. Tout ce qu'ils doivent subir, c'est la population qui est le plus touchée par les suicides, les paysans. Donc en fait, l'idée, c'est que justement, il y a une protection aussi sociale pour les agricultrices et agriculteurs, et puis que sur toute la chaîne de l'alimentation, on fonctionne sur le principe de la sécurité sociale. Et en fait, c'est pas du tout lunaire, c'est pas du tout utopique. Enfin, Louise Michel, justement, elle disait que les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui. Et c'est vrai, la sécurité sociale, ça existe. Donc déconfiner la démocratie, bien sûr, se dire que la démocratie, c'est aussi là où on est. Étape supplémentaire, c'est là justement, on touche à quelque chose de plus structurel sur le capitalisme. Quoi qu'on en pense, peut-être qu'il a des vertus, le capitalisme, mais il a aussi quand même beaucoup de vices structurels, et notamment le fait que c'est un système prédateur, c'est un système exploiteur, c'est un système qui est fondé sur le profit, donc sur l'extorsion du profit. C'est ça son but. C'est donc, on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce qui compte, c'est la loi du marché. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu dans l'air du temps quand même. Il y a eu plein de films sur, par exemple, la loi du marché, tous les films avec Vincent Lindon, les films sociaux avec Vincent Lindon, En avoir ou pas, Corporate, c'est vraiment un excellent film sur les DRH. Et en fait, c'est l'histoire d'une DRH qui est confrontée à un suicide d'un salarié. Et en fait, elle se met à comprendre la fonction sociale qu'elle occupe, c'est-à-dire de presser les gens comme des citrons pour avoir le profit de l'entreprise. Et l'histoire de Suleiman, justement, sur les livreurs, etc. Est-ce que c'est que cette existence abîmée par la loi du capital ? Donc, vivre la commune aussi, c'est vraiment un beau projet. Et pour terminer, parce que je trouve qu'on parle jamais assez, finalement, de la Palestine. En fait, moi, c'est vraiment un ami et camarade très cher, parce que j'essaie d'aller à peu près une fois par an en Cisjordanie pour essayer d'aider. Ben justement, en l'occurrence, là où je vais, c'est près d'Hébron, dans une petite ville qui s'appelle Al-Houl, où il y a des coopératives. Et bon, bah, tout à l'heure, Pierre me parlait du communisme déjà là, hein, c'est une formule de Bernard Friot. Et en fait, voilà, c'est des coopératives où ils mettent en commun des terres, des machines agricoles, de l'outillage. Et puis, voilà, c'est aussi une manière de lutter contre la colonisation. Et en ce moment, c'est vraiment monstrueux, y compris en Cisjordanie, et y compris, voilà, moi, dans ces parcelles-là, hein, ces parcelles où j'ai travaillé, même, voilà, et qui sont saccagées, enfin, c'est... Enfin, moi, j'ai pas été dans l'agriculture comme vous, Pierre, donc, voilà, je m'y suis mise vraiment sur le tard en allant de temps en temps aider cette coopérative, et c'est vrai que c'est un tel travail de voilà, de faire pousser du raisin et d'en prendre soin, etc. Et puis en fait, voilà, tous les jours, c'est saccagé, c'est brûlé, c'est pillé, c'est affreux. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une manière de vivre qui, et je vais m'arrêter là, qui rejoint ce que disait un socialiste à la pensée très belle de la fin du 19e siècle, du début du 20e, William Morris, comment nous vivons et comment nous pourrions vivre. Et voilà, cette idée de solidarité, de partage, de sortir de la loi... prédatrice du capital, de l'argent à tout prix, du profit à tout prix. Et peut-être la dernière chose que je voulais dire, y compris en tant qu'historienne, mais pas que, quand on fait une histoire vraiment de long terme, et notamment une histoire anthropologique, c'est-à-dire qui prend en compte l'histoire des sociétés humaines, et pas notre petite histoire de quelques décennies ou de quelques siècles, on s'aperçoit que voilà, cette manière de vivre avec des solidarités, avec un rapport au vivant, un rapport à la terre, un rapport à autrui, qui est plutôt dans la coopération que dans l'exploitation ou la concurrence, ben c'est une longue histoire de l'humanité, ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres des systèmes aussi exploiteurs, mais y compris quand on parle de la commune, ben on peut se rappeler des communaux. Hein. Les communaux, c'était pas seulement des terres, mais c'était des moulins, c'était des outils, etc., qui étaient mis en commun, des fours, etc., voilà, exactement, et où les femmes, d'ailleurs, avaient leur mot à dire dans les assemblées des communs. Et donc, ça, c'est ma dernière phrase, pour le coup, c'est vrai, c'est que, en fait, le passé, c'est pas uniquement réactionnaire. Se fonder sur le passé, moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment comme historienne, c'est pour ça que j'essaie d'écrire ces livres, c'est d'aller puiser dans le passé de la force, de la ténacité et des projets qui ont été réalisés autrefois, pour se dire aussi que ce temps-là qu'on vit, bah, finalement, c'est qu'un petit segment dans l'histoire de l'humanité et qu'il y a bien d'autres choses à faire.